Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle balade radiophonique qui nous emmène aujourd'hui au manège de Tilly à Évreux à l'occasion de la soirée Rockabilly proposée par le département de l'Eure mais dont un bon nombre de partenaires sont déjà sur place. Voilà, vous l'aurez compris, les portes sont ouvertes, alors ceux qui avaient réservé en amont le savaient déjà, les autres pourront arriver à partir de 20h, mais si vous venez maintenant, vous inquiétez pas, vous pourrez accéder bien entendu à l'espace du manège de Tilly. Pourquoi est-ce qu'on vous y invite dans cette soirée Rockabilly? Tout simplement, il s'y passera tout un tas de choses. À partir de 20h30, nous pourrons voir en avant-première le film Rockabilly Forever. C'est un film extrait notamment, émanant notamment du reportage qu'avait fait Gilles Rigoulet dans les années 80 avec les photos de nos rockers ébrouissiens. D'ailleurs, ces photos couvrent une partie des murs de ce manège de Tilly. Et puis à partir de 22h, nous vivrons au tempo du Rockabilly avec le groupe Hot Slap qui proposera un concert. Bien entendu, entre deux, vous retrouverez quelques petites surprises. Je ne dévoile pas tout, bien entendu, mais il y aura tout un tas de choses à découvrir. Et on vous y invite, ça ne nous coûte pas très cher de vous y inviter car l'entrée est gratuite. Et jeudi soir, quand c'est gratuit, autant aller se promener. Pour Radio Propulser cette émission jusqu'à vos oreilles, c'est encore la fine fleur de l'équipe de Principe Actif qui s'y est collée, à savoir l'ami Damien à la question, à l'organisation et au numéro de claquette. Et puis c'est bien sûr l'ami Jean-Jean qui, de son fronçage de sourcils, fera fonctionner cette régie technique, au moins pour la soirée, si ce n'est plus. Et puis, vous voulez mettre un jingle, c'est ça? De toute façon, c'est vous qui avez décidé, c'est vous qui avez les manettes.
Principe Actif 102.4 FM. Principe Actif 102.4 FM. Principe Actif.
Et rien de mieux que d'ouvrir ce plateau radio avec les organisateurs. Alors, plus précisément, nous sommes avec Alexandre Durand, directeur de la culture au département de l'Eure. Bonjour à vous.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, on est là dans le manège de Tilly où le public commence à arriver. Les gens peuvent venir profiter de la déco aussi, parce qu'il y a une belle déco pour le coup. Il y a quelques pick-up et voitures des années 50. Il y aura également le DJ Tib pour nos auditeurs. Ils savent bien de qui on parle. C'est Laisse le bon temps rouler qui normalement est sur notre antenne à cette heure-ci, mais qu'on retrouvera au manège de Tilly ce soir. D'où est venue cette envie du département ou cette volonté du département au bout d'un moment de valoriser finalement cette histoire qui fait partie un petit peu du patrimoine ébrouissien, l'histoire rock d'Évreux?
Alors vous avez en réalité tout dit, c'est-à-dire que le département a souhaité renforcer cette identité euroise et ébrouissienne qui est liée à la présence de la base aérienne américaine qui a laissé des traces jusqu'à nos jours. Et pour être plus précis, cette soirée Rockabilly, c'est une opportunité fantastique pour nous. En réalité, on a eu le plaisir d'accueillir il y a un an la réalisatrice Valérie Deschênes et Gilles Rigoulet, dont nous connaissions le travail. Nous avions déjà, nous, le département, soutenu la publication de sa série de photos, Rockabilly 82.
Qui ont été exposées, effectivement, l'année dernière, je me souviens, il y a un an et demi à peu près, à l'ouverture du comptoir des loisirs Évreux, l'expo était
absolument
là, elle a un peu circulé également.
Absolument. Elle a circulé dans le monde entier. Donc, Gilles Rigoulet, on peut vraiment le remercier parce que c'est un ambassadeur de cette identité rock euroise et c'est dans tous les magazines les plus chics et de photos du monde entier. Et donc cette rencontre, ils nous ont fait part au moment de cette rencontre de leur projet de documentaire et on a dit banco tout de suite. Alors on a dit banco, nous d'abord les équipes, et puis ensuite on a transmis le message à nos élus qui se sont emparés de cette histoire avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme.
Alors cette histoire du rock'n'roll sur Évreux, parce qu'on dit toujours Évreux, ville de rock'n'roll, bien entendu. Alors peut-être moins évident aujourd'hui, quand on est en 2019, de savoir précisément ce qu'il en était, mais il y a une réelle histoire du rock'n'roll, et notamment en lien avec la base aérienne, la base 105, et puis tous les Américains qui étaient sur Évreux. En fait, c'est de là d'où part un peu cette histoire rock'n'roll.
Absolument. C'est ce qu'on appelle finalement le soft power, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à diffuser leur culture américaine avec une certaine générosité, et les Évreuxiens s'en sont emparés. Dans un contexte difficile, puisque finalement, c'était l'après-guerre, tout le moment de la reconstruction de la ville.
Il y avait une euphorie aussi qui était liée aussi à cette période et qu'on retrouve notamment dans, j'allais dire, un peu l'extravagance aussi de vivre la musique.
Absolument, absolument. Et ça a perduré. Et finalement, ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est cette réappropriation du rock. Parce que le rock, c'est un genre à part entière, mais le rockabilly, c'est encore une sous-strate que les Évreuxiens vraiment se sont réappropriés avec toute cette bande de jeunes que Gilles Rigoulet célèbre très bien dans ses photos et qui étaient peut-être un peu considérés comme des loubards. Et aujourd'hui, ils sont partie prenante de cette identité euroise. Et il faut les saluer pour ça.
Nous recevons d'ailleurs en fin d'émission Buddy et Le Boucher. Ça s'invente pas, hein, quand même.
Non, hein, ça donne le ton. Là, je vois les gens qui arrivent. Là, c'est fantastique. Je pense que voilà, ça va vraiment être une très très belle fête.
Tout ce soutien du département notamment, mais pas seulement. D'ailleurs, il y a eu tout un tas de soutiens sur l'aventure rock'n'roll. On se souvient notamment des archives d'Évreux qui avaient sorti tout un volet autour de cette culture rock'n'roll. L'abordage avant sa disparition avait aussi remis sur l'histoire du rock'n'roll, parce qu'en fait, c'est de multiples acteurs qui se sont succédés sur la durée. Voilà, sur le rockabilly, c'est vraiment très 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 particulier. C'est aussi à travers ce film que vient chercher le département un petit peu. Je vois bien sur la partie un peu patrimoine évreuxien, mais que vient chercher le département sur ce soutien et puis sur cette valorisation, surtout au-delà du soutien, la valorisation de cette époque et tout ce qui en découle.
Le département, il cherche à recentrer son action culturelle sur ses bases, sur ses fondamentaux en vérité. Il s'agit pour nous de retravailler l'identité. Je pense qu'à vouloir faire comme les autres, on se perd. Et là, on voit bien, je veux dire, le succès de cette opération, les gens s'y reconnaissent, quoi. Alors, nous, on essaie évidemment de porter des projets culturels sur tout le territoire. Mais il faut partir du centre, Évreux et la ville-préfecture. Finalement, beaucoup des participants, beaucoup de ces rockers aujourd'hui sont aux quatre coins du territoire de l'Eure. Et il s'agit de porter haut et fort notre bannière euroise et de se rappeler qui on est, d'où on part. Et moi, je vois bien à travers l'opération qu'on a pu faire avec notamment le Tangram, qui a été d'ailleurs soutenu aussi par le département, We Love Rock and Roll, qui sera d'ailleurs un peu célébré ce soir.
C'était une des petites surprises de la soirée.
Voilà, on continue cette histoire, l'aventure continue. Alors évidemment, aujourd'hui, il ne s'agit pas de focaliser sur le rock, mais plutôt sur les musiques actuelles. Il s'agit de porter tous les mouvements créatifs. Les rockabilly d'aujourd'hui sont peut-être, sont peut-être sur d'autres genres musicaux. Mais partons de notre identité, partons des fondamentaux.
Justement, vous évoquiez les musiques actuelles. Le rockabilly, c'est toujours un petit peu l'entre-deux. Alors, c'est pas de la musique historique, mais voilà. Comment justement, peut-être justement ces fameux styles musicaux sont le lien aussi entre ce qu'on retrouve aujourd'hui en musique actuelle, ce qu'on entend musique dans le temps, dans l'époque. Le rockabilly est un petit peu daté tout de même. Aujourd'hui, on l'écoute avec nostalgie quand même, ce rockabilly.
Alors je comprends votre question. Pour moi, c'est un des rares mouvements de rock qui est encore vivant. C'est-à-dire que finalement, oui, il y a peut-être une partie de nostalgie, mais il a été totalement réapproprié par la jeune génération. À l'image de Thibaut qui travaille avec vous, qui a créé cette revue. C'est quelque chose de, à mon avis, toujours en action. J'ai un peu perdu le fil de votre question, pardon.
Non, mais c'était le lien, voilà, musique actuelle et comment on continue à faire vivre la musique actuelle. Alors, à travers les retours un petit peu entre l'histoire et puis le présent.
Alors, le rockabilly, c'est quoi? Quand on reprend l'étymologie, c'est rock, hillbilly. Hillbilly, c'était c'était un peu aux États-Unis les pecnos. Hein. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de revendication, quoi. Et moi, je crois que les mouvements musicaux, et ça vaut pour tout le reste de la culture, quand ça vient du fond, quoi, quand ça vient de la façon dont on se perçoit, ça fonctionne toujours. Alors oui, peut-être rockabilly correspond à une histoire de l'heure, et je suis très content que ça continue, mais peu importe. La musique actuelle aujourd'hui, peut-être qu'elle passe plutôt par... par le hip-hop, par le slam, ce qu'on veut, mais à partir du moment où on parle de soi et on l'assume, ce qui était le cas des rockabilly, et ils étaient seuls, hein, c'est ça qu'on veut soutenir, c'est cette énergie.
Justement, ce soir, nous profiterons de cette énergie, mais quand j'évoque la nostalgie, alors c'est peut-être après plus personnel, j'en sais rien, mais en tout cas, on n'est jamais insensible à ce type de musique, en fait, on tape du pied rapidement. Il y a des musiques qu'on aime ou on n'aime pas, j'ai l'impression que le rockabilly... Sans qu'on soit forcément fan, on est obligé d'aimer plus ou moins. Avec
absolument.
Cette petite touche de nostalgie, cette petite touche de rythme. Et c'est entre deux qui fonctionne à tous les tours.
Quoi. Là, regardez, on voit les participants arriver et on voit bien qu'il y a un phénomène intergénérationnel. Je pense que les vieux de la vieille emmènent leurs petits-enfants, leurs enfants. Et finalement, le rockabilly, c'est ce qui nous fait danser. Quoi. Et c'est ça qu'on va faire ce soir, on va danser.
Et puis il y a des jeunes avec des bananes encore là. Alors, je sais pas si c'est pour la circonstance, des jeunes.
Moi j'ai essayé de travailler la mienne, hein, mais c'est pas très réussi. J'ai pas assez de cheveux, je crois.
Je me suis pas permis. Ah, c'est plus fort que vous, Jean-Jean. Allez, mettez-le nous.
Oh, une banane. Oh, une banane.
Ah c'est notre réalisateur qui se fait plaisir. Hein.
Il a bien raison.
Il l'avait mis de côté, sa banane. Et ben justement, merci de la partager avec nous, cette banane. En tout cas, Alexandre Durand, merci beaucoup d'être passé par nos micros. Je rappelle, vous êtes directeur de service culturel du département de l'Eure. Et puis, on va profiter de cette belle soirée aux couleurs du rockabilly.
C'est à moi de vous remercier. Nous sommes très heureux de vous avoir comme partenaire. Éclatons-nous, déhanchons-nous et allons-y pour une super soirée.
C'est ça le but. Jean-Jean, je me retourne vers vous et vous allez nous déhancher, j'espère. Hein. J'entends rien du tout, moi. Hein.
Oui, merci. Juste mon petit papier où j'avais noté le titre des Météores, puisqu'on écoutait les Météores à l'instant, psycho. Et ben voilà, un morceau des Météores qu'on vient d'écouter à l'instant, juste le temps de m'installer, voilà, sur le plateau. Et nous poursuivons donc nos échanges. Merci pour le casque, Damien. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus sympathique. Voilà.
Et oui, et tout va bien, mon Jean-Jean, bonsoir à toutes et tous.
Mais on s'installe calmement, voilà. On a Gilles Rigoulet, bonsoir Gilles. Valérie Deschênes, bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et Marc Toulin.
Bonsoir.
Très bien, donc nous poursuivons nos échanges, et bien justement. Est-ce que tout le monde a du son? Est-ce que tout le monde s'entend bien au niveau du casque?
Oui, parce que c'est vrai qu'on doit rappeler hein, ce lancement ce bel écrin qui est le manège de Ty, et où il y a beaucoup de hauteur, et il y a beaucoup de monde qui vient assister à cette avant-première. Et donc du coup, voilà, il y a un petit peu de bruit périphérique, mais on s'équipe pour vous faire vivre de l'intérieur la chose, parce que bah, voilà, là on a clairement les personnes qui ont contribué à produire, réaliser, et à imaginer ce film documentaire. On va en parler avec vous, les amis. Je vais me permettre peut-être de commencer par Valérie, parce que bah, vous êtes la seule des trois à être une femme. Galanterie oblige, j'ai un petit peu de savoir-faire et de correction.
On se tire, hein, Marc.
Voilà, pas du tout, restez là, j'ai des questions pour vous, messieurs. Valérie, moi, ce qui est chouette, je vous ai découvert à travers le Triangle des Ondes. On parle de ça au début des années 2010-2011, hein, quelque chose comme ça, dans le cadre du film documentaire, donc tiens, parallèle. Et en fait, vous faisiez la part belle à des radios du même titre que la nôtre. En l'occurrence, on pense à notre grande sœur qui est la radio HDR. Vous avez fait un très beau triangle sur l'Afrique, l'Argentine, donc l'Amérique du Sud, et les Hauts-de-Rouen, un sacré crossover, mais en même temps très humain. Et ce qui est incroyable, c'est que là, je découvre que c'est vous aussi qui amenez chapeauter ce projet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vous connaissiez les deux loustiques depuis très longtemps? Ils voulaient que ce soit aussi votre touche, votre patte. Est-ce que c'est vous qui avez accéléré ces messieurs? Comment s'est passée un peu cette histoire et cette rencontre, s'il vous plaît, Valérie?
Bah alors souvent un film amène l'autre, mais là en l'occurrence, Marc et moi sommes amis avec Gilles depuis très longtemps. Gilles et moi on est hébroïciens, donc il y avait deux connexions. Il y avait une connexion avec la ville, qui est la ville de mon enfance, je suis hébroïcienne et j'ai quitté la ville à 18 ans. Et quand Gilles nous a montré ses photos de 82, et d'une, Marc a eu l'envie, l'idée de faire ce film. Et de deux, on travaille souvent ensemble, Marc et moi, donc il m'a demandé de l'écrire. Ça a été une double rencontre. Et du coup, moi, je suis aussi retombée dans ma jeunesse. Donc, ça m'a beaucoup émue parce que j'ai revu des gens que je n'avais pas vus depuis 40 ans, moi aussi, comme Gilles, en fait.
Il y avait des noms de famille et des visages qui vous étaient familiers.
Il y avait des connexions de part et d'autre. Alors, du coup, c'est beaucoup d'émotions ce soir pour nous trois. Parce que il y a beaucoup de partage et de souvenirs souvenirs partagés et sur les photos de Gilles, j'ai retrouvé des gens que j'avais connus mais que j'avais oubliés.
Alors justement, est-ce que c'est plus difficile ou est-ce que c'est plus facile quand on a l'émotion, quand on a vécu des années
C'est toujours plus intéressant d'avoir de l'émotion.
Oui, je
pense. Après, on peut être distant sur un sujet et ça peut très bien marcher aussi. Il n'y a pas de loi, en fait. Moi, ça m'a ému, oui.
Et qu'est-ce qui fait le fait justement de dire OK par rapport aux photographies de Gilles? Est-ce qu'il y a chez vous autre chose aussi qui vous donne envie de mettre en place, de monter ce documentaire?
Oui, le rapport à l'autre, le rapport à ces personnages que Gilles avait donc photographié en 82, qu'il nous a fait rencontrer au travers de ce film qu'on a donc mûri, Marc et moi. Et les rencontres avec les rockers nous ont convaincus du bien fondé de faire un film et du bien fondé de leur donner la parole, de les écouter, parce que Gilles disait très joliment, il vous le dira mieux que moi tout à l'heure, que les photos, l'image ne suffisaient plus, il avait envie de les écouter, il avait envie de leur donner la parole. Et donc notre mission à Marc et moi, outre de faire des images et de les filmer, de les mettre en mouvement, puisque Gilles les avait photographiées d'une manière forcément immobile, néanmoins très belle. Et du coup, nous, on a essayé de leur donner la parole et on en est très contents.
Avant de me tourner vers eux, une dernière question sur cette introduction et ce sujet si riche. Est-ce que c'est la première fois que vous étiez amené justement à travailler sur un support au départ fixe, figé, quelque part, hein, pardonnez-moi, même si l'image peut dégager du mouvement et vous venez très bien de l'illustrer en servant du propos de Gilles, ou est-ce que vous l'aviez déjà fait, de vous servir d'une fondation telle que celle-ci ?
Alors, pas trop avec des photos. Oui, avec des archives, comme dans le film que j'ai fait précédemment sur la mémoire ouvrière dans l'industrie textile. J'adore les archives filmées. Mais c'était un peu la première fois que je travaillais avec des archives photographiques et j'ai trouvé ça très intéressant et très beau.
Eh bien, merci. On rappelle, hein, Valérie Deschênes, on dit quoi script, co-réalisatrice ?
Co-réalisatrice.
Co-réalisatrice, merci beaucoup. Messieurs, on a l'embarras du choix. Vous êtes tous les deux aussi très intéressants dans ce qui émarche de ce soir et ce qu'on va vivre, parce qu'on doit le dire à nos auditeurs, on l'a pas encore vu. Donc on va être obligé de se
questionner. Vous non plus ? Vous non plus ?
Non.
Non, mais et des fois on a su, vous l'avez vu monter.
Ah non, non.
Ah non,
ah non, pas fini.
Gilles, moi,
c'est une
vous,
c'est vrai, Marc.
Non, moi j'ai été privé.
Moi je l'ai vu, bien sûr.
Oui, Marc Toulin, il est co-réalisateur.
Bien sûr, mais évidemment. Non, mais je questionne Marc en disant il l'a pas vu.
Gilles ne l'a pas vu.
Tout s'est fait rapidement.
Voilà, on est en montage et on a essayé de voir comment on pouvait essayer de demander à Gilles de venir, mais regarder un film c'est une heure avant il faut qu'on en discute, une heure pour en discuter après ça fait trois heures, et on n'avait pas le temps avec la monteuse, on n'avait plus le temps, on a fini dans les journées, et il fallait qu'on termine le vendredi, on a terminé le vendredi, donc ça s'est pas fait, parce que c'est compliqué, mais bon, mais Gilles va le découvrir et je pense que...
Pourquoi c'est bien bien aussi de découvrir comme ça, avec
bah oui.
Ce public,
ah bah là, c'est mieux que...
moi je trouve ça fantastique.
On espère qu'il va être content.
C'est mieux d'avoir la discussion avant, comme ça on est sûr que...
J'espère qu'on sera toujours amis.
Marc, c'est complètement atypique, complètement incroyable, des images, on va revenir avec Gilles sur le sujet, qui restent un peu masquées, pas en lumière pendant 30 ans, quelque chose comme ça, dont on va puiser, on s'en sert, on les ressort, et puis on se dit, bah tiens, on va en faire un film docu. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Est-ce que vous, il y avait eu un précédent ? Est-ce que vous aussi, il a fallu... C'était un vrai challenge dans l'approche de ce projet ?
Moi, je fais de la photo depuis longtemps aussi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Gilles.
D'accord.
Sur différents projets. Donc, maintenant, ouais, ça fait près de 20 ans, 25 ans. Donc, quand Gilles m'a parlé de ses photos, il me les a montrées, il a sorti un livre, on s'est dit, tiens, ça serait peut-être bien quand même d'arriver à engager un processus de documentaire et là il faut trouver le producteur, il faut trouver la chaîne,
il y a tout
un maillon, donc c'est toujours très difficile au début entre l'idée et puis le fait de pouvoir arriver à la réalisation du projet, c'est très long, mais on a tenu bon et on a réussi à monter le projet.
Alors ce qui est énorme, c'est que vous me parlez un petit peu de tout le parcours qui est celui de monter un tel projet et pouvoir être aidé et trouver des relais. Mais il y a aussi tout le travail, j'imagine, de retrouver les personnes, parce que c'est une vraie question. Est-ce que l'ensemble était encore en vie ? Est-ce qu'ils étaient encore dans le même zone géographique ? Est-ce qu'ils ne s'étaient pas, pour certains, mariés ou avaient changé de nom ? Est-ce qu'ils n'avaient pas changé de courant, de culture, de passion ? Là, on est face aussi à une contrainte particulière.
Je pense que là, Gilles va mieux répondre à cette question, parce que lui, il est resté en relation avec la ville d'Évreux. Il a continué à faire des expositions, il a sorti un livre, donc il a forcément retrouvé les personnages. Donc nous, on arrive après,
d'accord,
les personnages étaient déjà.
Oui, c'est pas à vous,
donc
c'est plutôt, vous de le faire, c'est plutôt à Gilles qui mène l'enquête en amont.
C'est plutôt à Gilles de raconter cette manière d'avoir retrouvé le...
Super transition, Gilles, on est...
Alors on y va, oui. Alors, moi, c'est un fait que moi je ne les ai pas vus pendant très longtemps, parce que moi j'étais photographe de presse, donc j'ai voyagé énormément. Et c'est qu'à un moment, quand j'ai arrêté la presse, que j'ai replongé dans ces archives, et en discutant un petit peu avec des iconographes que je connaissais au niveau national, ils m'ont dit que cette série était plus qu'étonnante et rare au niveau français, par son traitement, qui amène aussi des gens qui sont chez eux, avec leurs parents, dans leur chambre, au travail, et tout. Et ça n'a pratiquement jamais été abordé, quoi. On aborde toujours ces phénomènes de musique en général sur le rock que dans les sorties, dans ce qu'il y a de plus valorisant pour eux. C'est-à-dire qu'ils s'habillent le soir, ils sortent. Là, on fait des photos. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de les suivre aussi.
Oui, il y a un côté donc, look, il y a un côté paraître, un côté look dans
ouais,
le... Dans le
ouais, ouais, ouais. Quand même. Ce qui était intéressant aussi, et c'est ce qui est... ce qui fait toute la valeur aussi de ce, des images et du documentaire, c'est que eux vivaient réellement le rockabilly, mais tous les jours, quoi. Et c'est ça que je voulais montrer. C'est-à-dire que les types, quand ils allaient bosser, ils avaient
ils
la banane.
Ouais.
Voilà. Et c'était constamment. C'était une vraie croyance. C'était une culture, quoi. Et ça, ça a été extrêmement touchant. Et c'est pour ça que moi, je me suis intéressé à eux pendant 5 mois à peu près que je les ai suivis. C'est parce qu'il y avait un vrai fond, quoi.
Ah, on l'a pas précisé, cette durée de.
Et ça, c'était très authentique. L'autre jeunesse a été. Quand moi donc j'ai arrêté la presse, que j'ai replongé dans mes archives plus de 30 ans après, ça a été de comprendre que ça avait une valeur. On en a fait un livre après, et c'est au moment du livre en 2016 que là j'ai recontacté
les
gens de la bande pour leur donner le livre. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des types qui étaient morts, qui étaient injoignables, on ne sait plus où certains sont passés et tout. Mais il en reste quand même une grande partie ici, quoi, et qu'on va retrouver ce soir, et également qui sont vus dans le documentaire. Quoi.
C'est beau. Ce livre, on l'a pas dit, Rockabilly 82. Oui. On peut toujours se le procurer là à côté de nous. Bon, bah voilà, il est pas loin.
Il est sur le stand.
Il est là.
Des anecdotes, parce que justement, là, vous les recontactez, vous les rejoignez. Certains que vous avez peut-être pas vu non plus depuis 30 ans ou 40 ans.
Complètement, oui.
Et ils vous ont reconnu directement.
Oui.
Ça s'est fait naturellement. C'est parce que c'est une histoire humaine aussi.
Ah non, mais il y a eu un contact qui était très fort à l'époque aussi, et le courant passait bien. Moi, c'est-à-dire que je suis aussi photographe de presse depuis très longtemps et que j'ai l'habitude de faire du reportage à long terme, c'est-à-dire du grand suivi. Et c'est-à-dire que quand on passe 5 mois avec un groupe, voilà, on crée des liens.
Ça a été facile de vous faire accepter, justement, à l'époque, dans les années 80, par la bande des rockabs.
C'est comme tout groupe abordé, ça demande toujours du temps, ça demande un temps pour la confiance, un temps pour la parole ouverte. Et moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette pratique-là, c'est-à-dire que mon suivi, et ce qui est aussi, je le note aussi dans les photos, c'est que quand on feuillette le livre, pratiquement personne ne me regarde. Et ça, c'est aussi le travail du photojournalisme qui se fond dans un groupe jusqu'à se faire oublier. Ça, c'est très important. Et pour ma photographie, moi, c'est quelque chose que je mets réellement en avant et que j'ai toujours pratiqué sur plein d'autres portages, quoi. C'est-à-dire se fondre dans un groupe, dans un état, et humainement aussi. Mais j'étais capable de leur répondre aussi à un moment donné s'ils venaient vers moi. Mais je reprenais ma position de me fondre dans le décor ou dans l'ombre pour être le plus présent possible à ce qui se passe contre eux, quoi.
C'est à tout à votre honneur, et je suis intimement convaincu que ça a grandement joué dans justement produire, réussir à obtenir ce que vous avez produit, réalisé en leur compagnie. Oui. On ne l'a pas précisé, ce nom, ce documentaire qui va être projeté, vous deux, là, Marc et Valérie, ce soir, en exclusivité, hein, c'est une avant-première, c'est une vraie, quoi.
C'est la
grand écran magique Big Size.
Ouais. Bah oui, là, c'est grand.
Il y a deux.
Le nom, on ne l'a pas dit, Valérie. Le nom du documentaire.
Rockabilly Forever.
Merci. Et il est ce soir ici, et après il est en streaming, il est sur France 3,
il est sur des plateformes. Diffusé sur France 3 Ouest, Grand Ouest, lundi à 23h.
Ce lundi,
possibilité de le voir en replay pendant toute la semaine prochaine. Et ensuite, on espère qu'il aura une vie en festival ou dans des événements, rockab ou...
Il y a de grandes chances à voir les photos, et on espère qu'on n'attendra pas 30 ans.
Il est prévu au festival photo MAP de Toulouse à partir du 15 mai. Là, et le festival dure jusqu'au 30 mai et il est programmé. Donc, les photos sont... les photos noir et blanc sont prévues. Les Polaroids que j'ai commencé pendant le tournage du documentaire, là, et le documentaire sera projeté également à Toulouse, quoi. Mais c'est une première étape, ça.
Eh bien, on a hâte de le découvrir. On va être obligé de passé ce temps ensemble, d'écouter et d'enchaîner dans cette émission. Franchement, merci beaucoup.
Merci
pour la passion
vous.
Qui vous anime, le plaisir de vous rayonner. On est intimement convaincus que ça va être chouette. Merci Marc.
Merci
Gilles. Merci Valérie.
Merci
voilà,
à vous.
Jean-Jean,
et on aura la chance d'avoir les hot slaps tout à l'heure, que vous connaissez également.
Nous les avons suivis.
Puisque vous les avez suivis aux États-Unis.
Exactement.
On va s'écouter un morceau de Half Full ou de hot slap pour voir ce que notre technicien.
Hot slap. Eh ben voilà, hot slap.
C'est ce qu'ils sont avec nous ce soir. Et puis on les prend plateau derrière. Merci beaucoup. Longue vie à ce documentaire et longue vie à vous tout simplement.
Merci.
Merci.
Street. I sent everybody what I wanted to meet. She said, hey, don't stop and listen to me. They got something but not can hop in your face. It's called the Mojo Boogie. You know that Mojo Boogie. You know that Mojo Boogie. Big and I slam them down. I thought you was teaching me, you ran away. I said, Jumpsuit, tell me what you said. Could be losing your boogie, be all the kind of things. They have me got a thing they call the Mojo. And they go the Mojo Boogie. You know that Mojo Boogie. Yeah, my mojo big ain't big and I'll slide them crazy, but just for telling me how to operate it. Went tonight, I was clean and tight. I know all the people starting to fight. While the Mojo Boogie, you know that Mojo Boogie, you know that Mojo Boogie, begin to slam them down.
Ok, hot slap. Hot slap. En
voilà,
direct.
C'est ce qu'on vient d'écouter.
Mais c'est ce qu'on vient d'écouter.
Juste à l'instant, la magie voilà. Du direct.
La magie du direct fait qu'on les a également directement là, sur le plateau.
On les retrouve tout de suite.
Principe actif.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Dans le sud de l'heure, 95.9. Aéroïde, 102.4. Et partout ailleurs sur principeactif.net.
Et nous recevons les hot slaps, à savoir Martin, Didier et Francky. Bonsoir à vous. Ma toute première question ne sera pas musicale, elle sera capillaire, quand on parle de rockabilly, on parle de musique, mais on parle d'un univers qui est un peu plus large que juste la musique. Et je suis obligé de venir sur une petite remarque capillaire, et notamment les coiffures. Alors, c'est une des variétés des bananes possibles. Ça fait partie intégrante au bout d'un moment de vivre la musique, de vivre le rockabilly, la coiffure et les vêtements également. Enfin, en tout cas, il y a un fort lien entre la musique et j'ai envie de dire ce qui en découle, au niveau vestimentaire et capillaire.
C'est vraiment un style qui va avec la musique, évidemment. Les fringues, les bagnoles, il y a tout ça qui va ensemble.
Vous êtes venu en pick-up ou quelque chose comme ça ou les hot slaps ça ne vont pas jusque-là.
J'ai une DS, mais elle est restée en garage alors. Donc,
C'est, j'ai la sensation, moi, qu'au bout d'un moment, quand on vit Rockabilly, de toute façon, ne serait-ce que par l'apparence, par les cheveux, par tout ça, finalement, on le vit même en dehors du moment où on va écouter de la musique. Il y a un côté comme ça ou pas, ou c'est moi qui fantasme complètement sur ce côté Rockabilly?
T'as bien répondu, non, ça va avec.
Ah ma mère, je posais la question.
Tu fais les questions-réponses.
Non, c'est bon. T'as tout dit là.
En 2019, vive le rockabilly, parce que le rockabilly est lié quand même aux années 50, hein, de manière très directe et de ce courant musical qui est né à ce moment-là. Vivre rockabilly, écouter encore du rockabilly en 2019, est-ce que ça a une autre signification, un autre sens, ou ça s'apprend autrement que, s'appréhendait à l'époque?
De toute façon, depuis les années 50, il y a toujours des groupes de rockabilly, surtout à l'heure actuelle. Il y a encore plus de gros. Il y a beaucoup de groupes de rockabilly.
Il y aurait un retour un petit peu.
Il y a un gros retour dans le rockabilly depuis quelques années. Il y a beaucoup de jeunes, il y a des Mexicains, des Japonais qui sont dans le retour, dans le rockabilly.
Et peut-être aussi avec des styles différents, on dit rockabilly, mais c'est peut-être plusieurs écoles, plusieurs chapelles en fait.
Ça peut être aussi bien du swing, du billy, des country rock,
la
bien sûr.
Hutslap, justement, il y a un courant particulier dans ce que vous faites en rockabilly, justement.
On a notre truc à nous, c'est au niveau du slap, parce que le slap, c'est au niveau de la contrebasse. Et nous, on est au taquet, donc on veut pas faire le
rock. Le slap, c'est quand la corde claque en même temps, c'est ça, sur la caisse,
sur la touche.
C'est ça y va franchement, quand ça slap, ça y va.
C'est le slap, voilà.
Non, rien.
Ah non, d'accord, je voyais cette approche de micro.
On n'a pas envie de parler.
Quand on fait du rockabilly aujourd'hui, j'imagine qu'on en a écouté avant, on a été nourri à quoi musicalement? Parce que vous n'avez pas tous exactement le même âge, j'imagine que vous avez été nourri différemment musicalement.
Voilà, on n'a pas tous mangé dans la même gamelle. Donc
c'est Didier le plus jeune, il a que 27 ans. Tu te rends compte?
Merci Martin, c'est cool.
Non mais c'est le rockabilly, c'est un style dont la racine est le blues et la musique afro-américaine qui vient en partie de la Nouvelle-Orléans. Et en fait, ce style, c'est juste une prolongation de ce qui avait été fait de la musique américaine. La musique américaine, elle a eu diverses façons de s'exprimer. Et quand le blues est arrivé à Memphis, ça a donné le rock'n'roll. En fait, c'est lié à la même racine comme le jazz, le blues, le rock'n'roll, tout ça. Tout ça à la même racine en fait.
Alors justement, vous nous parlez bien des États-Unis. Là, tout à l'heure, on avait comme invité, on avait Valérie Deschênes et Marc Toulin qui ont fait le film. Alors on va rien dévoiler, mais quand même, ils vous ont suivi donc aux États-Unis parce que vous êtes parti faire une tournée en Amérique. Et Valérie et Marc vous ont suivi. Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous en parler.
En fait, on a eu un peu de chance de les croiser.
Oui.
Et puis on a parlé de notre projet de partir aux États-Unis, de partir à Austin, puisqu'on avait une tournée là-bas.
Ouais.
Et eux devaient finir leur reportage aux États-Unis aussi. Et on s'est dit, pourquoi vous viendriez pas nous voir, on pourrait se rejoindre là-bas.
Mais c'est carrément le rêve, c'est le paradis. Vous partez, vous êtes un groupe de rockabilly, vous partez jouer aux États-Unis, les racines, et en plus, vous êtes accompagné d'une équipe de cinéma.
C'était vraiment génial. En plus, ils ont accepté de retarder leur voyage d'une semaine. Ça n'a pas été facile pour eux, puisqu'il y avait le montage du film et tout. Et ils ont retardé leur voyage d'une semaine pour venir vivre une partie de l'aventure avec nous.
Donc ils vous ont suivi sur les différentes dates qui étaient programmées, dans les différentes villes. Vous avez fait la tournée ensemble dans...
En fait, on a tourné principalement à Austin. Mmh. Et tous les soirs, l'équipe de tournage était là. Donc ils ont pu vivre ces moments-là avec nous.
Et ça, ce sont des images qu'on va voir dans le film.
On espère, on n'a pas encore vu.
On n'a pas vu les roches.
Oui, c'est ça, c'est peut-être coupé au montage, on n'en sait absolument rien. Il y a peut-être un jouer aux États-Unis, justement, ce rockabilly qui est né là-bas. Est-ce qu'il y a un petit côté impressionnant ou quelque chose? Ça a un sens particulier, j'imagine, qu'il y a un petit truc avec le cœur. C'est pas comme d'aller le jouer à Tourcoing, c'est très bien de le jouer là-bas.
Pas que.
En fait, les Américains sont super ouverts d'esprit, contrairement à ce qu'on peut croire. Là où on était, les gens sont ultra ouverts d'esprit, ils nous ont accueillis les bras ouverts, ils ont été hyper hospitaliers. hyper attentifs et ils ont bien aimé notre esthétique et ils ont bien aimé la façon dont on jouait leur musique parce qu'en fait c'est un peu ça. Ils nous ont même demandé de jouer des titres en français parce qu'en fait ils sont friands d'avoir des échos d'ailleurs et ils adorent la France donc ils ont été c'est ça qui les charme et en fait quand on était là-bas en fait on était moi j'étais assez impressionné de leur ouverture d'esprit qui parfois est absente ici. Et alors que là-bas, en fait, finalement, on trouvait des gens vachement prêts à plein d'expérimentations diverses en musique.
Et aussi le fait que vous arriviez de Normandie, est-ce que c'était quelque chose qui les interpellait, la Normandie, ouais, par rapport...
C'est la France.
Okay.
Enfin, la France, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose...
Je pensais au débarquement, je pensais...
Juste avant les
années 50, l'arrivée des Américains...
La Normandie, ça parle tout de suite.
Ça leur parle, en fait, tout à fait.
Sur la partie à proprement parler Hot Slap, quand on compose, ça se passe comment composer du rockabilly parce que c'est très codifié.
Martin,
ouais, c'est très codifié. Finalement, on a nous nos repères d'auditeurs plutôt pour le coup sur ce qui s'est fait dans les années 50. Et quand on compose aujourd'hui. Comment on procède parce que j'imagine qu'on compose pas comme dans les années 50, qu'on veut donner quelque chose d'autre ou pas, ou est-ce que tu recherches plutôt l'authenticité du premier
son? Est-ce que tu utilises Cubase ou alors est-ce que tu es encore les bandes magnétiques?
Non, c'est très artisanal puisqu'en fait ça part toujours d'une idée, d'une mélodie ou d'un riff de guitare et en fait à partir de ce moment là on se met ensemble, on travaille ensemble et généralement la structure de ces morceaux est très codifiée comme tu viens de le dire donc il y a des choses à ne pas rater, il y a des structures qui se répètent, qui sont facilement reconnaissables quand on les écoute. Donc effectivement, le fait que ce soit codifié, parfois ça peut faciliter le travail et parfois c'est un peu difficile de se renouveler, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut être très prétentieux pour prétendre avoir quelque chose de nouveau à dire via ce vecteur de musique-là.
Vous en êtes à votre combienième album ou EP ou
deuxième album.
Est-ce que déjà vous sentez une évolution entre le premier et le deuxième? C'est facile aussi? Est-ce que il n'y a pas une difficulté d'évoluer dans le style de musique rockabilly? Comme tu le disais tout à l'heure, on va rester un petit peu à l'identique. Non, est-ce que justement vous sentez des évolutions?
En fait, le premier album a été enregistré totalement live, c'est-à-dire qu'il y a eu c'était un peu à l'ancienne du style. J'exagère à peine, je dirais il y a eu un micro qui était posé au milieu de la salle et on a joué. Donc le premier disque c'était ça, le deuxième disque a été enregistré dans des conditions beaucoup plus professionnelles, du moins beaucoup plus. On avait plus de temps, plus d'argent, on avait mieux organisé la chose. Donc forcément le deuxième disque est peut-être plus abouti. Ça dépend pour qui d'ailleurs, en fonction des goûts et des couleurs. Et voilà, c'est pour l'instant, c'est là où on en est. Comme on a fait on a eu ce projet des States, là on est on sait pas ce que va donner l'année prochaine par rapport à l'enregistrement d'un disque.
Pour conclure, moi il y a une thématique à côté de laquelle nous ne pouvions pas passer, c'est la thématique de la danse. Clairement, le rockabilly est étroitement lié à la danse. Faites-vous partie des heureux groupes à avoir des danseurs quand vous jouez? Parce que c'est pas évident souvent, ça, cette
souvent,
danse.
Ouais, souvent, ouais. Il y a même souvent, on fait monter les danseuses sur la scène pendant qu'on joue. Et pour nous, c'est bien.
Parce que de moins en moins on danse et encore moins à deux. Ouais, et là, le rockabilly, ça s'y prête très clairement à la danse.
Disons que quand on voit les gens qui commencent à danser, on se dit que c'est bon, c'est par là qu'il faut aller, quoi. C'est cette ambiance-là qu'il faut installer.
Très bien, bon, on vous retrouve tout à l'heure à 22h sur cette scène du manège de Tilly. Merci beaucoup à vous,
Slap.
Merci Martin, Didier et Francky d'être passés par nos micros. Justement, Damien, on s'en réécoute un morceau des Hot Slap, hein. Ça vous va? Eh bien, on fait ça alors.
Merci.
Yeah. need someone to hold you tight, and you think love is to pray. But I'm sorry, I don't play that way. Once I run to you, now I run from you. These tend to love you've given, but if you all the boy could give you, take my tears and that's not there. Tears of love, tears of love.
C'était un second titre des Hot Slaps que nous retrouverons à 22h sur cette scène du Manège de Tilly à l'occasion de la soirée Rockabilly et également dans quelques minutes, maintenant dans une dizaine de minutes, l'avant-première du film Rockabilly Forever, un reportage émanant de photos de Gilles Rigoulet dans les années 80 et justement un des jeunes de l'époque photographié par Gilles dans les années 80 est à notre plateau. Nous avons Buddy. Bonjour Buddy.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, vous allez découvrir ce film qui va être projeté aujourd'hui. Mais vous avez déjà retrouvé votre tête sur les expos de Gilles Rigoulet dernièrement. Comment on regarde 37 ou 38 ans après ces images quand on a été un des jeunes photographiés de cette époque-là?
On regarde à part les rides qu'on a en plus, mais sinon je trouve qu'on a l'impression que c'était hier et on se voit encore comme si que ça faisait 8 jours que c'était fait en fait. 37 ans, ça
s'aperçoit que ça passe vite quand même.
Oui, tout à fait, mais on a l'impression que c'était hier et là on vient de retrouver tous les copains qui étaient là de l'époque.
Ouais.
Et franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Et je remercie Gilles pour tout ça, parce que c'est un peu grâce à lui en fait.
C'est grâce à lui si ça vous a permis de vous retrouver ou déjà vous rencontriez quand même durant ces 20 dernières années
Certains j'ai revus,
oui,
de temps en temps, et d'autres pas du tout. Donc il y en a au jour d'aujourd'hui, ça fait presque 37 ans que je les ai pas revus. Enfin 37 ans, moins que ça, parce qu'on les revoyait quand même de temps en temps, mais il y en a, j'avais pas revu depuis les photos, quoi.
Alors justement, revenons un peu sur cette époque. Gilles Rigoulet, c'est en 80, 82, c'est 82, ça?
Oui, enfin, il a dû commencer les photos, je pense, vers décembre 81. Il a passé à peu près 3-4 mois avec toute la bande et il a pris les photos de tout le monde à l'époque, quoi.
Donc Gilles arrive dans votre univers, enfin, vous viviez cette époque rockabilly. Et puis Gilles arrive pour prendre des clichés, mais pas seulement de la soirée rockabilly, parce que ça, il y en a plein d'autres d'images qui arrivent, mais de votre vie, de comment vous abordiez les choses. J'en profite pour accueillir le boucher avec nous. Bonjour, parce que vous êtes arrivé en cours de route. Voilà, le boucher est avec nous. Comment est-ce que vous appréhendez finalement ce photographe qui vient vous prendre dans votre vie quotidienne dans les années 80-82 là?
Ah, c'est pas évident au départ. Faut qu'il s'intègre dans notre intimité, quoi. Bon, puis après, la confiance s'est installée entre nous.
Mais c'est arrivé vite, la confiance,
oui,
justement,
oui, oui,
assez
oui.
rapidement.
Oui. Oui.
Parce que c'était quelqu'un aussi du cru, quelqu'un d'hébreu, voilà, aussi au départ. Oui. Et
Nous, c'était clair, on était dans notre milieu, soit on acceptait les gens, soit on les refoulait totalement. Oui. Quoi. Et alors, lui, on l'a accepté.
Et alors, vous dites, intégrer dans notre activité, dans ce que vous faisiez, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il fallait pour s'intégrer finalement? Fallait écouter du rockabilly avec vous? Fallait avoir la tenue ou c'était, c'était différent? Comment ça s'est passé?
Pas forcément avoir la tenue. Après, il y a beaucoup de gens qui venaient parce qu'ils étaient déjà plus âgés que nous. Ils écoutaient, puisqu'il y avait le rock'n'roll qui était arrivé sur Évreux avec les Américains à la base.
Dans les années 50,
voilà, c'est ça. Et donc ils connaissaient déjà le milieu.
La rencontre avec le rockabilly, justement, Buddy, le boucher, comment se passe cette rencontre avec ce style de musique qui, même s'il est arrivé à Évreux à travers les militaires américains qui étaient sur la base, vient de loin quand même. Comment est-ce qu'au bout d'un moment, c'est le rockabilly qui fait mouche auprès de vous ?
Ce qui fait mouche par rapport à nous, c'est-à-dire que nous, on était passionnés, moi et mon frère qui est là. Donc on est déjà tout petit et on aimait déjà les Elvis, tous les Bill Haley, tout ce qui était vraiment rock'n'roll, on écoutait déjà tout ça. Et il y a eu une période qui s'est passée dans les années 80. C'est des groupes que j'ai rien contre eux, mais donc les Forbans, il y a eu Billy, il y a eu J.C. Garron, qui à l'époque ont mis au goût du jour le rock'n'roll et qui s'est transformé en rockabilly en fait. Donc c'est pour ça que pas nous spécialement, mais il y a plein de gens qui sont mis là-dedans et ça a vraiment parti par rapport à tout ça. Mais encore une fois, je dis, ça n'a rien, pas vraiment, c'est pas plus ces musiques-là qu'on écoutait. On était déjà passionnés, on écoutait les Crazy Cavan, les Matchbox, les Flying Saucers.
C'est avantage sur Crazy Cavan que le côté commercial des années 80, un peu top 50 avec les Forbans, avec ces groupes-là.
Mais je pense que ça a acheté dans le département d'Audler. Je pense que ça a fait quelque chose par rapport à ces groupes-là, que j'ai rien contre eux, bien sûr. Hein, eux sont là pour faire du commerce. Donc ces gens-là, faut bien qu'ils gagnent leur vie aussi. Hein.
Alors racontez-nous, à cette époque-là, quand vous partiez en cavale, un peu en soirée, il y a Gilles qui vous accompagnait, je me suis laissé dire qu'il y avait des soirées, des virées direction le Val d'Oise ou dans des clubs ou dans des endroits spécialisés rockabilly. Oui. Racontez-nous un peu, vous partiez, à plusieurs voitures.
Voilà, on se téléphonait.
Il y avait les Arons, les Frégates.
On pouvait aller n'importe où. On pouvait aller sur Rouen, pour la région parisienne.
Il fallait trouver des endroits quand même qui passaient cette musique-là quand même, parce qu'il y en a, sur la région d'Évreux, il n'y en avait pas beaucoup.
À l'époque,
Et
les DJ à l'époque, je vais citer son nom parce que pour moi c'était un des meilleurs de la région à l'époque, Michael Starr, qui nous passait, on amenait les disques, il nous les passait sans problème, il nous passait 3-4 séries dans la soirée.
Il faisait une série à l'époque de ce qu'on appelait les dancing, les ancêtres, avant les discothèques.
C'est ça.
Voilà, c'était et il y avait les DJ qui passaient
Il y avait Michael Starr, Peter Mondi, qui était un grand ami à moi,
qui est parti malheureusement, qui est décédé, tout à fait, dans les années 80.
Lui, il lançait des
bonnes séries de rockabilly.
Dans les dancing
à l'époque. C'était comme ça que vous pouviez avoir la musique de Crazy Cavan, de vrais groupes rockabilly ou américains, etc. On était... Oui.
Moi, le rock américain, c'est un basketteur américain qui a joué à Évreux, Léon Clark, qui, lui, avait sa boîte à huées. Quand j'arrivais à la boîte, me mettait un casque et il y avait ma musique pour moi, écouter le rockabilly.
Ouais, ouais.
Vraiment, ils ont amené ça sur cette culture sur Évreux.
Des personnalités comme ça, des personnes sur Évreux qui ont fait beaucoup de choses, qui ont apporté beaucoup de choses à la musique, comme tu cites Léon Clark, grand basketteur, et qui a amené la musique aussi en rhythm and blues, soul, etc., sur Évreux, à cette époque-là également.
Voilà, c'était un copain, mon père.
Tout
simplement.
Dans ces clubs, dans ces discothèques, ça dansait un peu et j'entends rockabilly parce qu'il y a quand même un lien assez fort entre la musique et la danse, qui est étroitement lié avec le rockabilly en particulier. Ça dansait ?
Ça faisait partie
de l'enjeu de danser ?
Ah oui, c'est-à-dire que les DJ à l'époque, on n'appelait pas vraiment les DJ à l'époque, on appelait ça plutôt les animateurs, les discos mobiles. Eux passaient de la musique pour tout le monde et quand ils mettaient des séances rockabilly, même ceux qui n'étaient pas du tout rockabilly, les filles, les gars, tout le monde dansait dessus, c'était vraiment sympa.
Y a ça aussi avec cette musique, c'est qu'en fait, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment dire que quelqu'un puisse dire « Ah non, vraiment, j'aime pas ça ». Vous voyez, ça fait partie des trucs qui fonctionnent. Il y a des courants musicaux, choses comme ça, qui, même si on n'est pas fan, même si on est... Ça passe bien quand même et puis on peut facilement aller danser.
Oui.
Mais il y a un groupe qu'on a oublié de citer quand même au début des années 80, qui a mis le mouvement vraiment, qui a redonné un coup de... C'est les Stray Cats.
Ah bah bien sûr.
Là, actuellement, ils retournent. Ils sont revenus sur scène.
En plus,
Mais moi, j'ai une petite anecdote là-dessus parce que j'avais racheté un Teddy à un copain et derrière, il y avait un écusson Stray Cats et il y a un gars de la bande d'Évreux Saint-Michel qui me dit « Écoute, si tu veux venir avec nous, tu m'enlèves tout de suite cet écusson. » Alors pourquoi, je ne sais pas. Ils n'étaient pas spécialement fans des Stray Cats, ils adoraient plus Brian Schweitzer, le chanteur, que les Stray Cats, en fait. Donc, parce que c'était la musique qui était bien, mais c'était différent de ce qu'on écoutait Cavon et puis Matchbox et tout ça, quoi.
Il y a peut-être un côté américain et un côté anglais.
Ouais, c'est ça, peut-être.
C'est peut-être la différence.
C'était plus le côté rebelle.
Oui, oui.
Teddy Boy.
Justement, dans cette musique, elle portait quand même une certaine rébellion alors dans les années 50, de manière hyper évidente par rapport à la musique des parents. Voilà, c'était quand même la réaction.
On appelait ça les blousons noirs, un peu.
Oui, il y avait Glove Drouot, il cassait tout.
Tout à fait.
Est-ce que dans les années 80, justement, elle était chargée de cette même signification, et notamment pour vous, d'une espèce de rébellion, ou en tout cas l'irrévérence au moins.
Oui, il y avait forcément des conflits à chaque fois, parce que il y avait aussi à cause des fois les filles, il faut le dire ce qui était, il y en a, parce qu'on arrivait dans des soirées, les filles, ils aimaient bien. On avait une tenue un peu spéciale, donc les bananes, les teddy boys, enfin les teddy, les chaussures, tout. On avait un look, et les filles, et ça faisait forcément les gars du coin, ils disaient tiens, ils vont nous faucher notre pépé, et ça finissait souvent, alors que nous, on n'était pas venus du tout pour la bagarre. Et des fois, ça arrivait plusieurs fois que ça finisse en bagarre, quoi.
Et il y a une notion de bande hein, quand même dans cette, dans cette pratique de musique, il y a une notion de bande tout de même, hein, qui est évidente. Elle avait un nom, la vôtre de bande. Il y avait un nom, il y avait un truc, quelque chose, une appartenance particulière.
Non, on disait simplement la bande de Saint-Michel, quoi.
Ouais, c'est parti d'une bande de copains, quoi.
Voilà, c'est ça.
Tout simplement. Hein.
C'était quand même la bande de Saint-Michel. Ouais, c'est pas la bande tout court. Hein. Il y avait la bande de quelque chose.
Nous, on n'était pas de Saint-Michel à la base, on était de Gravigny. On a été acceptés dans la bande.
C'est ça.
Parce que moi, je travaillais à Saint-Michel depuis 77 déjà.
Et c'est pareil, la bande de Saint-Michel, parce que par rapport au village américain, par rapport, non, pas spécialement.
Non, parce qu'ils étaient de Saint-Michel. Et puis c'est là qu'ils ont plus percé. Comme il y avait la bande de la Madeleine qui était plus musique...
Funk.
Tout ça. Et nous, c'était Saint-Michel, c'était le rockabilly. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'on était aussi fans de voitures. On avait pratiquement tous des voitures anciennes. Donc moi, j'avais une Simca ronde, il y avait une Chambord, il y avait une Versailles, il y avait 203, une autre P60. On était vraiment 7-8 voitures anciennes à l'époque.
C'était les voitures qui ressemblaient le plus aux voitures américaines des années 50, on peut le dire.
C'est ça, Et donc Gilles, qui a même repris une deuxième série photo dans le Nitro, que j'ai participé aussi avec les voitures, on était tous les gars de Saint-Michel avec les voitures anciennes qu'il avait repris dans Nitro aussi.
Et justement, il y avait l'art de vivre à la rockabilly, on l'évoquait, il y a la coiffure, il y a les vêtements, il y a les voitures, le côté bande aussi. En fait, le rockabilly, clairement, c'était pas qu'une musique. Hein.
Non, c'était tout un groupe.
C'est un monde, on va dire.
Voilà, c'est notre monde, quoi.
Et justement, êtes-vous toujours rockabilly ?
Ah, moi, toujours, oui. On va toujours dans les festivals récemment.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Toujours.
On descend. Moi, je descends.
Ça ne changera pas.
Tous les ans, je vais en Bretagne. Enfin, tous les deux ans, à Bourgneuf, en Reste. Là, il y a un festival. La Chapelle en Serval, tout ça.
Et est-ce qu'il y a des demoiselles ? Il y avait des demoiselles aussi rockabilly dans la bande ?
Oui, bien sûr. On appelle. Il y en a qui on les appelle plus les pin-up, quoi. Mais non, ils ont même la tenue et tout. Et c'est franchement, c'est super, quoi.
Je pense aussi à des chanteuses de rockabilly, parce que.
Et la nouvelle génération, je trouve qu'on les rencontre beaucoup de jeunes et ils reprennent le flambeau, en fait. Hein. C'est ça qui est bien. Hein. Donc voilà.
Eh bien, parfait. Dans quelques instants, on vous verra sur le grand écran. On vous verra 37, 38 ans en arrière. Voir ce que ça veut. Vous l'avez pas vu le film, j'imagine, comme les autres.
Non, on n'a rien vu.
Vous allez le découvrir.
Non, c'est parti,
c'est ça. Eh bien, merci beaucoup à vous, Buddy.
C'est moi, merci.
Merci le Boucher.
Merci.
C'est un plaisir d'échanger avec vous.
Et bonne continuation de votre radio. Merci.
Eh bien, on fera pour. Nous arrivons sur la fin de ce direct que nous réalisons sur le manège de Tilly, où se déroule ce soir la soirée Rockabilly, avec à 20h30, dans quelques minutes à peine. Merci le Boucher. Dans quelques minutes, avec l'avant-première du film Rockabilly Forever, à 22h, nous retrouverons les Hot Slap pour un concert Rockabilly, bien entendu. Nous, on va vous laisser, parce qu'on va s'installer maintenant, sinon on n'aura plus de place, Jean-Jean.
Eh oui, tout à fait. Ouais, puis on va aller refaire notre banane aussi.
Tout à fait. Elle est un peu retombée, la vôtre. Hein.
Ah, j'ai pas de bol. Elle est un peu flambée.
Voilà.
Oh, une banane. Oh, une orange. Oh, une poire. Oh, une prune! Oh, une salade de fruits! Oh, une salade de fruits!
Et voilà, nous aurons la banane, la prune, la pêche et la pomme! La pomme!
Hein. On va faire une belle salade de fruits.
Exactement, comme ça. Nous, bah, on va rendre l'antenne, s'installer devant pour assister à ce film. Bah, vous avez déjà le popcorn, vous, hein.
Ah, moi, j'ai le popcorn, c'est normal, hein, c'est... On va au cinéma, on mange du popcorn.
Tout à fait, on aurait presque pu le voir en drive-in.
Oh
ah, je vois avec... qu'un coup, ça vous fait envie.
Avec la Chambord ou la Versailles.
C'est ça, en drive-in, vous auriez bien aimé. Hein.
Ah bah oui, avec à vos côtés.
Ah ben...
Oh, une banane.
Rejoignez-nous, c'est maintenant. Hein.
Ouais, ça se passe au, voilà. Au manège Tilly.
À la radio Propulsion, nous avions Damien, nous avions Jean-Jean. Et on va s'installer en salle.
Et nous avions JC.
Salut.